Michel Konings, merci d'être parmi nous à ONU Info. Donc, vous êtes la directrice exécutive de la direction exécutive du Comité contre le terrorisme des Nations Unies. Donc, merci encore d'être parmi nous. Donc, nous allons parler du terrorisme en temps de COVID-19. Donc, bien sûr, la pandémie de COVID-19 a mis en évidence les vulnérabilités aux formes nouvelles et émergentes de terrorisme, et c'est ce que a dit le secrétaire général de l'ONU, et en particulier avec l'utilisation abusive des technologies numériques et cyberattaques et bioterrorisme. Donc, peut-être justement pour commencer, pouvez-vous nous dire ce que vous avez observé ces derniers mois, justement?
Merci d'abord de m'avoir invité. Eh bien, le COVID-19 nous a tous touchés de tout près ou de loin, soit au niveau de la santé et soit au niveau de la sûreté. Donc, depuis le début de l'annonce de cette pandémie par l'Organisation mondiale de la santé, tout le monde aux Nations Unies a commencé à travailler via le télétravail. Donc, ça a eu déjà un impact direct sur la façon dont on a travaillé. Donc, les hôpitaux, les services médicaux ont dû opérer, mais également sur le comment des mouvements des terroristes et des extrémistes violents. Donc, eux aussi ont dû subir ces mêmes mouvements, et on voit donc un impact direct sur la façon dont on réfléchit, la façon dont on travaille. Et puis, depuis le début, à la DECT, l'organisation que je mène, en fait, on a commencé à vérifier à partir des sources ouvertes, soit à travers le dialogue constant qu'on a avec les 193 pays du monde, soit en étroite collaboration avec le réseau global des centres de recherche. En fait, on a établi un contact avec une centaine de centres de recherche, d'universités partout dans le monde. On a tâché de voir l'impact direct à court terme, peut-être à mi et à long terme, de ce COVID-19 sur le terrorisme, sur le combat du terrorisme et sur le combat de l'extrémisme violent. Et là, on a vu qu'il y avait soit des changements de comportement, soit que des prises en main par le gouvernement des mesures, soit d'urgence, soit de surveillance digitale, ont également causé des réactions qui peuvent avoir des conséquences sur le plan de la sûreté, sur le plan du terrorisme et de l'extrémisme violent. Et on a vu donc qu'il y a quand même des petits changements. Ceci étant dit, lorsqu'on parle du terrorisme et de la lutte contre l'extrémisme violent, il faut toujours le faire de façon nuancée. C'est une matière tellement complexe et compliquée qu'il faut vraiment voir en quelle mesure il y a un vrai impact, il y a une possibilité d'impact, et si cet impact est vraiment confirmé par des recherches scientifiques. Se baser sur des présomptions serait tout à fait inacceptable. Comme on l'a vu, et je crois qu'il y a énormément de similitudes entre le combat du COVID-19 et le combat du terrorisme, il faut vraiment avoir une clarté de la situation. Quel est l'impact, quelles sont les mesures qu'il faut absolument prendre, et quelle est la nécessité d'avoir ce multilatéralisme dont on parle tellement. Il faut avoir des mesures au niveau national, certes, il faut avoir des mesures au niveau régional, certes, il faut avoir des mesures au niveau global. Tant que pour le combat contre le virus terroriste que contre le virus COVID-19, on voit qu'il y a cette connectivité entre les États membres. Ce qui se passe dans un État a un impact direct dans d'autres États voisins, dans la même région et même au niveau global. Et ça nous a frappé, cette similitude entre les deux, où il faut aussi avoir un échange d'informations constant, une clarté dans la communication, mais également un échange de bonnes pratiques, de leçons apprises, et donc apprendre des leçons apprises par nos voisins, par les continents voisins. Donc, il y a énormément de similitudes, il y a aussi des différences, évidemment, mais on a en fait eu une sorte de système de radar depuis le début de l'annonce de la pandémie, depuis le mois de mars, et on continue à le faire, sans toutefois, et là j'insiste quand même, de dire qu'il y a un impact direct sur l'activité terroriste. On voit qu'il y a des tendances émergente, mais il faut toujours être prudent dans cette dure, surtout crier la clarté. Les deux ont encore quelque chose en commun, la terreur et le Covid sèment la peur, sèment l'anxiété, et donc on a tous intérêt dans la clarté de nos propos, plus maintenant que jamais auparavant.
Et justement, pour en discuter, vous avez eu la semaine dernière la semaine virtuelle de la lutte contre le terrorisme, donc qui vient juste de prendre fin. Donc, quels ont été les principaux enseignements de la semaine de lutte contre le terrorisme ?
Et justement, le sujet était de voir quel est l'impact du Covid-19 sur le terrorisme, l'extrémisme violent et la lutte contre ces deux phénomènes. Quels sont les besoins essentiels? Est-ce qu'il y a une continuation de l'activité terroriste, ou est-ce que l'impact fut tellement exemplaire que les terroristes ont tous été en inactivité, en une sorte de passivité? Est-ce que le respect des droits de l'homme, le respect pour une approche qui tient compte du genre, qui tient compte de l'importance de la jeunesse, est-ce que l'approche fut inclusive ou exclusive? Est-ce que c'est uniquement le travail et la responsabilité du gouvernement, des autorités nationales gouvernementales, ou est-ce qu'il faut vraiment avoir cette approche inclusive où il faut inclure la société civile, les ONG, le monde académique, le secteur privé? On s'est également penché sur la problématique qui est tellement connue depuis quelques années maintenant, des combattants terroristes étrangers, de ceux qui retournent, qui se relocalisent dans des différents pays voisins au pays où ils se trouvent actuellement, surtout en Syrie et en Irak. Qu'est-ce qu'il est arrivé pour un nombre impressionnant d'enfants et de femmes qui se trouvent dans les camps, par exemple en Irak et en Syrie? Comment peut-on prévenir le terrorisme? Est-ce qu'on voit une hausse d'une activité en ligne? Et oui, s'il y en a une, quel est l'impact sur la radicalisation? Est-ce qu'elle mène simplement à une division de la haine? Quel est le caractère de cette haine? Est-ce que cette haine est raciste, ethnique, religieuse, idéologique, politique? Est-ce que cette haine est transformée en violence? Et si oui, dans quelle sorte de violence? Une violence extrême? Une violence politique? Est-ce qu'elle se traduit dans des actes de terrorisme par des acteurs solitaires ou des activités de groupuscules bien déterminées ou de groupes terroristes islamistes ou autres? Est-ce qu'il y a un impact sur la suprématie blanche? Est-ce qu'il y a un néonazisme qui se profile plus vite? Est-ce qu'il y a dans ces différentes activités un lien international? Ce sont des aspects qui ont été soulevés la semaine passée, tout au long de la semaine, de 5 jours, menée par le bureau qui mène le combat contre le terrorisme, sous la direction du sous-secrétaire général, M. Vorankov, mais qui a vraiment réuni une série d'experts, plus d'un millier de participants, 125 États membres, 75 sociétés civiles, des académiciens, la communauté tunisienne. Et donc, on s'est penché sur l'impact Covid, sur cette nécessité d'avoir un multilatéralisme et une coopération internationale, un respect, quoi qu'on fasse, de qui qu'on parle, de droits de l'homme, mais aussi de la règle de loi, avoir des mesures préventives, voir dans quelle mesure il y a une hausse de l'utilisation de l'Internet et des réseaux sociaux à des fins terroristes ou extrémistes, violents, et voir comment des mesures prises par des gouvernements peuvent avoir un effet tout à fait involu, comme par exemple des mesures d'urgence prises par les gouvernements. Je dirais l'initiative prise à lancer des délits terroristes, par exemple cracher, tousser, éternuer, peut devenir dans quelques pays des délits terroristes. Est-ce qu'on voit des différences? Quel est l'impact? Et dans quelle mesure est-ce que cela a un impact sur la division, l'unification d'un pays ou d'une région? Et est-ce qu'il y a des régions qui sont plus visées? Ce qu'on a vu également, c'est que les terroristes voyagent évidemment moins, comme tout le monde dans ce monde tout à fait impacté par le Covid-19, mais qu'ils font le pas vers le cyberterrorisme, vers l'activité terroriste potentiels en ligne, qu'ils recrutent, qu'ils radicalisent et qu'ils continuent à financer le terrorisme. Donc, ce fut en quelques mots les thèmes de la semaine virtuelle la semaine passée, mettant également en exergue l'importance qu'on attache à la victime. Que le secrétaire général, qui a vraiment initié il y a quelques années la journée internationale de la victime, et où en fait le bureau la lutte contre le terrorisme a également tenu à mettre en exergue cette importance. Les victimes qui, dans un contexte actuel, ne parviennent non plus à connecter de façon physique et normale, mais qui restent là avec leur traumatisme, qui restent là avec leur traumatisme, je dirais même éternel, et qu'il faut donner une voix, un visage, et qu'il faut laisser la possibilité d'avoir cette coopération, de prévenir le terrorisme en parlant justement de leur traumatisme et de les faire partie de la solution. Et donc, tout cela fait partie de cette semaine virtuelle antiterroriste, la semaine passée.
Et durant cette semaine, est-ce que vous avez abordé justement les besoins, les priorités en matière de lutte contre le terrorisme pendant et post-pandémie? Et y a-t-il justement des vulnérabilités?
Je crois qu'il faut continuer justement à être vigilant, alerte, être à l'écoute, avoir un dialogue avec tous les États membres sans faire des exceptions. Parce que comme le Covid et le terrorisme est un problème global, il peut y avoir des mouvements et des changements qui se font la nuit, par exemple. Donc, il faut être très, très alerte, être à l'écoute et suivre ce que nous avons fait. La 2, c'était justement à faire, suivre les tendances émergentes et voir s'il y a un impact possible sur le terrorisme et l'extrémisme violent. Et comme on l'avait fait déjà avant le Covid, on avait déjà mis l'accent sur le multilatéralisme, la coopération internationale, le besoin d'échange d'informations. On avait déjà dit qu'il fallait absolument faire attention aux combattants terroristes étrangers, ceux qui retournent et qui rentrent dans leur pays, qu'il fallait les suivre de tout près, qu'il faut les évaluer, les assister, les poursuivre éventuellement, les réhabiliter, les réinsercer. Donc tout cela continue à être important. On continue également à se pencher sur le financement du terrorisme. Et on voit là quand même des tendances émergentes d'utilisation d'actifs virtuels possibles. Mais on voit par exemple qu'en Europe, on a fait une saisie récente d'une quantité impressionnante d'amphétamines qui était liée à Daesh, à ISIL, qui était produite en Syrie et qui s'est retrouvée dans un pays européen. Donc, on voit également qu'il y a des pays dans des continents bien précis où les groupes armés, les groupes criminels, les groupes terroristes continuent à étendre leur champ d'action et qui, évidemment, aidés ou influencés par le Covid-19, ont beaucoup plus de marge de manœuvre. Pourquoi ? Parce que les terroristes, les extrémistes violents profitent simplement de la fragilité des États, commencent à remplacer les autorités du gouvernement s'ils voient qu'il y a une possibilité. Donc il y a là, pour nous, une nécessité d'avoir cette vigilance, d'être alerte, de se pencher sur les soi-disant hotspots, les pays qui ont démontré un besoin énorme d'assistance technique et de suivi. Et c'est là justement la plus-value absolue des Nations Unies, de devoir, à travers une vue d'hélicoptère, une vue d'ensemble, comment les phénomènes se développent, où ce phénomène et ce thème se développent plus vite et où il faut agir avec urgence et un sens de responsabilité.
Et comment votre bureau s'est adapté justement à la lutte contre le terrorisme durant cette réponse Covid-19? Est-ce que votre bureau a dû s'adapter justement?
Justement, comme tout le monde, on a suivi les consignes d'abord du pays où on est, de la ville où on est accueilli, également les consignes qui ont été données par le secrétaire général. Le lockdown, le confinement nous a imposé un télétravail. Et donc là, dans le cas d'espèce de mon organisation, la direction exécutive du comité de la lutte contre le terrorisme, là où on faisait les évaluations lors des visites d'évaluation dans les 193 pays déterminés par le Conseil de sécurité, eh bien à cause des restrictions de voyage, il faut maintenant continuer d'avoir un dialogue à travers les missions permanente ici à New York, à travers des contacts avec les points focaux dans les différents pays membres, grâce aux contacts renforcés avec les résidents coordinateurs et les soi-disant country teams, comme on les appelle, pour avoir cette vue d'hélicoptère, avoir ce dialogue qui est tellement important, et de continuer à évaluer en fait dans quelle mesure l'État est en mesure de mettre en place les résolutions du Conseil de sécurité ou le Conseil de sécurité, et voir où se trouvent les lacunes, les problèmes éventuels, et en fait transmettre ces informations en temps réel aux autorités tunisiennes qui s'occupent justement essentiellement du renforcement capacitaire et de l'assistance technique, le GACHEYAN, au CITI, donc le Bureau pour la lutte contre le terrorisme, les pays donateurs. Donc il y a tout un travail de coordination qui se fait, et en dehors de cela, également suivre de tout près les mouvements, le développement, l'évolution des tendances, et de voir s'il y a des tendances émergentes, et d'en faire des produits analytiques comme on l'a fait récemment à la DECT, et qu'on partage avec le monde entier pour que tout le monde puisse savoir en temps utile à quoi faire attention, recouper ces informations avec des expériences vécues évidemment dans les pays, et de continuer justement ce dialogue. Donc ça a fortement influencé la façon dont on a commencé à travailler, réfléchir, mais de toute façon, quoi qu'on fasse, il faut rester proactif, à la hauteur des choses, et ne pas prendre les choses de façon relaxe, mais être encore beaucoup plus actif qu'auparavant.
Et vous parliez justement plutôt de la participation de toutes les parties de la société. Et est-ce important pour les femmes et les jeunes de participer justement dans la lutte contre le terrorisme pendant cette période, mais aussi post-Covid, et pourquoi ?
Ça fait partie intégrale des dispositions prises par le Conseil de sécurité, et c'est devenu vraiment un fil rouge. On ne peut pas avoir des mesures sécuritaires ni avoir des stratégies de lutte contre le terrorisme si on a une approche non inclusive, exclusive. Et donc, c'est un travail, certes, du gouvernement, des autorités nationales officielles, mais également couplé à un travail essentiel de la société civile, des académiciens, du secteur privé qu'on ne peut pas négliger, et de la femme, du respect du genre, et un respect équilibré, et de la jeunesse. La jeunesse qui, évidemment, représente le futur. Moi-même, j'ai, avant le Covid-19, rendu dans différents pays concernés par la problématique du terrorisme, et on pose à chaque reprise la question: combien de jeunes est-ce que vous avez sur votre sol? Très souvent, c'était plus que la moitié, 60%, 70% de la société est représentée par les jeunes. Donc, si on ne donne pas une voix à ces jeunes, si on ne regarde pas après l'éducation tellement nécessaire de ces jeunes, on risque de créer à ce niveau-là toute une génération de jeunes sans perspective, sans espoir, qui risquent de devenir des cibles privilégiées des terroristes et des extrémistes violents. Donc il faut faire attention à ce genre de présence, soit dans la prise en considération de politique, la législation. On a vu quand même cette année-ci, dans les 4 premiers mois de cette année, dans un pays bien précis de l'Afrique, il y a eu un nombre d'actes de terrorisme impressionnant, centaines d'actes de terrorisme, que là où les 3 dernières années dans ce même pays, il y a eu le même nombre d'actes de terrorisme. Et qu'est-ce qu'on a vu ? Que ces actes ont certainement ciblé des écoles. Plus de centaines d'écoles ont été fermées à cause des actes de terrorisme. 55 000 enfants sont sans éducation, sans école. Plus de centaines de profs, d'éducateurs sont sans travail. Si on ne trouve pas une remède, si on ne trouve pas la solution à court terme, on risque d'avoir dans cet État, dans une certaine région de cet État, avoir des problèmes énormes. Et là encore, on voit que le problème de la sûreté est étroitement lié au développement, aux problèmes d'environnement, de l'économie, de l'aspect budgétaire en fait. Et comme Covid-19, on le sait tous, a un impact énorme certainement à mi et long terme sur l'économie. Il faut voir les choses dans leur contexte bien précis, dans une région bien précise, mais avoir l'œil sur pour la jeunesse. Le genre. On voit également que dans les pays qui sont déjà fortement atteints par le terrorisme et l'extrémisme violent, on a ressenti ce besoin d'avoir des femmes de genre qui jouent leur rôle, soit dans la prise de décision, soit dans une approche inclusive. Mais on voit que maintenant, justement, à cause du Covid-19, ce sont justement les femmes qui deviennent les soignantes en premier lieu et donc les victimes en premier lieu. Et là où on voit également que dans ces mêmes pays, ce sont encore les femmes qui deviennent les premières victimes d'actes de groupes criminels ou de groupes terroristes. Donc là, d'autant plus, la raison de ne certainement pas négliger, mais surtout respecter cette approche qui tient en considération l'importance du genre, l'importance de la jeunesse, l'importance du secteur privé. Je parlais justement de la propagande, de la glorification du terrorisme en ligne. Et comment maintenant avoir une modération de ces discours? Comment modérer ce discours? Comment avoir un discours positif, une alternative? Ça se fait évidemment en étroite collaboration avec le secteur privé, mais il faut avoir un mécanisme où le secteur privé et le secteur public peuvent se rencontrer. Il y a des initiatives qui ont été prises par les Nations Unies, également par ma propre direction, comme le TAC Against Terrorism, qui est un partenariat privé public qui en fait aide les petites compagnies, les startups à avoir les mêmes possibilités que les grandes compagnies technologiques à faire face à ce genre de problème. Comment modérer, comment en fait avoir des alternatives, mais le faire évidemment en respectant les droits de l'homme et la liberté d'expression. Donc il faut avoir toujours cet équilibre qui n'est pas évident et qui demande un partenariat renforcé entre ce monde du secteur privé et le secteur public. Donc il y a toute une série de travail qui ne date pas de cette période-ci, la période dite Covid-19, mais qui date depuis quelques années, mais qui, en suivant les tendances émergentes, devient d'autant plus important et d'actualité.
Et une dernière question, Michel Koenigs. Comment peut-on justement bâtir des sociétés résilientes et débarrasser le monde du terrorisme? Je sais, c'est une grande question. Mais...
Je sais qu'on utilise quelquefois des grands mots comme la éradication du terrorisme. Dans un monde idéal, on n'aura plus de terrorisme demain ni après-demain, mais je crois qu'il faut aborder le sujet, comme je l'ai dit, de façon nuancée et avec un sens de responsabilité, d'urgence et de réalisme. Je crois que si on a déjà cette approche inclusive dont je viens de parler, donc en ayant les mondes couplés en fait du secteur public, secteur privé, le gouvernement avec le monde sociétal, je crois qu'on a fait un énorme pas en avant. Que si les mesures prises dans le cadre du combat du terrorisme et du combat de l'extrémisme violent se font en un respect total du droit de l'homme et de la règle de loi, on va avoir des résultats tangibles. Si la coopération qui se fait maintenant entre la DECT qui travaille pour le Conseil de sécurité, mon organisation, qui justement a comme objectif de faire l'évaluation de mesures prises en matière de terrorisme, qui suit les développements quotidiennement et qui a vu à travers de ce dialogue constant une vue d'hélicoptère et qui doit également faciliter la livraison de l'assistance technique. Si ce matériel-là est échangé en temps utile et on le fait en temps réel avec OCT, ce bureau contre la lutte contre le terrorisme, et que si le bureau qui dirige la capacité et le renforcement de cette capacité et l'assistance technique, si on travaille main dans la main avec tous les autres homologues tunisiens qui ont aussi un rôle à jouer, toutes les organisations internationales et régionales, et si en fait on parvient à voir à travers notre radar une mainmise sur quels sont les thèmes vraiment émergents, quelles sont les menaces émergentes et les tendances émergentes, et quels sont les thèmes dans quel pays et quelle région à suivre de tout près, pour que là, une fois qu'on a identifié les problèmes, qu'on puisse tout de suite venir à l'aide et faire le travail par excellence des Nations Unies, venir en aide, soutenir les pays qui ont des problèmes, soit de terrorisme, soit d'extrémisme violent, et le faire avec, je dirais, un grand sens de responsabilité et d'urgence.
Michel Konings, merci beaucoup pour cette interview.
Ce fut un grand plaisir. Merci à vous.